Bonjour à toutes et bonjour à toutes, merci d'être avec nous sur Radio Galaxie 98.5 FM, la radio du sud de Toulouse, celle qui va de Toulouse jusqu'au pied des Pyrénées. Et nous allons parler météo parce que pour les plus fidèles de nos auditeurs, vous avez certainement remarqué que depuis le début du mois de février, on a retrouvé un monsieur météo pour Radio Galaxie, un monsieur météo, un professionnel de Météo France, Arnaud. Arnaud, bonjour.
Oui, un professionnel qui maintenant est à la retraite, mais qui a effectivement fait une partie de sa carrière à Météo France.
Donc, le matin à 7h47, 8h moins 10, à 10h et à 12h30, ainsi qu'à 18h30, vous retrouverez votre bulletin météo quotidien avec Arnaud. Alors Arnaud, c'est plusieurs années passées à Météo France, c'est quoi le parcours ?
Bien, c'est un parcours assez classique pour quelqu'un qui a envie de faire de la météo, des études de sciences physiques et ensuite le concours de technicien météo en Météo France, où je suis rentré en 1982. Je l'ai quitté cette maison pour un autre parcours professionnel en 2001. Mais effectivement, pendant près de 20 ans, je suis resté prévisionniste, d'abord en région lyonnaise, puis très rapidement à Auch, qui ouvrait son centre départemental, et ensuite à Albi, où pendant plus de 10 ans, j'ai été chef technicien en charge du bulletin de prévision météorologique un jour sur trois.
Qu'est-ce qui motive quelqu'un à étudier la météo ?
Souvent, les météorologues sont des passionnés. C'est une science très particulière, une science imparfaite, on pourra en débattre un jour. Mais l'attrait du ciel, d'abord, l'envie de savoir ce qui se passe déjà, l'état du ciel, l'état des températures, et ensuite, ce souhait de se projeter dans l'avenir, d'avoir finalement une connaissance anticipée de ce qui va se passer. Avec les mystères d'une nature qui est toujours changeante, qui est toujours impressionnante aussi, lorsque les phénomènes sont les plus violents. Et donc, on se retrouve finalement emporté dans ce tourbillon d'une observation et d'une prévision permanente. Au point d'ailleurs, je le cite souvent comme anecdote, qu'on a du mal à profiter du beau temps parce qu'on sait déjà quand est-ce qu'il va faire mauvais.
Cette formation de météorologue se fait à Toulouse, à l'école de Météo France, c'est ça ?
C'est bien ça. Alors j'ai eu le privilège d'inaugurer l'école nationale de la météo en 1982. Nous étions une promotion de presque 200 techniciens. C'était la plus grosse promotion qu'ait jamais connue Météo France et qu'elle ne connaîtra jamais d'ailleurs. Dans cette promotion, on a fait un an de formation et ensuite un an de stage dans une station météo. Et pour moi, c'était Lyon-Saint-Aulas. Maintenant, on appelle Lyon Saint-Exupéry, c'est-à-dire l'aéroport de Lyon. Cette formation est une formation qui est très précise dans les données météorologiques, l'observation, la climatologie, la prévision bien sûr, la cartographie, l'informatique. Et un aspect qu'on oublie souvent dans la météorologie, c'est qu'on ne peut être météorologue que si on a une bonne connaissance de la géographie.
C'est sa géographie et après, donc l'essentiel du travail, c'est la lecture de cartes et la lecture de données.
La lecture de cartes, la lecture de données, le travail sur les modèles de prévision numérique. J'ai eu ce privilège de connaître l'arrivée de l'informatique dans les centres départementaux de la météo. J'ai eu le privilège aussi de connaître l'évolution de deux outils qui sont aujourd'hui indispensables, les radars de précipitation. Et évidemment, aujourd'hui, c'est commun, courant et voire banal, c'est l'utilisation des satellites. Mais on l'oublie, avant 1982 et avant le lancement de MétéoSat, nous étions aveugles du point de vue de ce qui se passait, notamment dans une grande partie des océans.
J'ai entendu dire également que nombre d'outils de mesure météo étaient sur les avions.
Alors, on utilise aujourd'hui les données météo qui arrivent d'un peu partout. L'essentiel quand même du réseau se fait sur un réseau de surface, à la fois réseau professionnel et réseau d'amateurs. Et de ce point de vue, il y a sur le territoire de Radio Galaxie plusieurs stations météo tenues par des observateurs bénévoles. Et puis évidemment, s'ajoute ce qu'on appellerait la météorologie des professionnels, celle des marins pêcheurs, celle des bateaux de la marine marchande et bien sûr celle de l'aéronautique. Les avions de ligne communiquent leurs informations météo aux stations météo et aux centres de traitement de la prévision. Et ce sont toutes ces données qui, concentrées, vont fabriquer ce que l'on appelle en météorologie une analyse, c'est-à-dire la connaissance en temps réel de l'atmosphère dans son détail, à la fois en surface, mais également, l'atmosphère c'est environ 15 km d'épaisseur, sur les 15 km d'épaisseur d'atmosphère qui conditionne bien évidemment le temps qu'il fait partout et surtout le temps qu'il va faire.
Si nous, auditeurs, on utilise la météo pour savoir si on peut aller pique-niquer, aller faire du ski ou éventuellement aller se promener au bord de la rivière, les professionnels utilisent la météo aussi à des fins plus professionnelles, eux.
Tout à fait. Et c'est pour ça que certaines notions qui font un peu sourire, la notion de beau temps ou de mauvais temps, ça fait sourire le météorologue parce que ça n'a de sens qu'en fonction de l'usage. Pour un pilote d'avion, le beau temps, c'est l'absence de nuages à basse altitude et l'absence de vent fort ou de vent violent ou d'intempéries capable de provoquer une difficulté dans son vol. Pour le marin pêcheur, c'est un océan relativement calme. À la limite, il s'en fiche qu'il pleuve ou qu'il pleuve pas. Si l'océan n'est pas très agité, c'est pour lui du beau temps pour la pêche. Pour évidemment la ménagère ou le ménager qui, lui, étend son linge à l'extérieur, le beau temps, c'est l'absence de pluie et le fait que le linge peut sécher rapidement. Donc on voit que la notion de beau temps ou de mauvais temps va être très très évolutive en fonction des usages. Et effectivement, nous avions coutume de dire à Météo France que la prévision était précise pour ceux dont la question est précise. Prenons un exemple très concret, la gestion de l'alimentation électrique de notre pays. Elle relève de la gestion des centrales nucléaires et des barrages. Il est évident que si Météo France se trompait de tout au tout lorsque on annonce les prévisions de température à 24 heures ou 48 heures, nous aurions des délestages électriques qui interviendraient en permanence. Or, la prévision de température pour EDF est aujourd'hui remarquable et elle permet à EDF de gérer son parc de centrales nucléaires. Mais on peut prendre le même type de prévision sur la gestion de l'eau, qui va devenir majeure sur nos territoires. Pour gérer les barrages, eh bien, il est évident qu'il vaut mieux savoir quand est-ce qu'ils ont capacité à se remplir plutôt que de subir finalement des phénomènes induits qui viendraient contrecarrer l'usage de ces barrages.
Sur notre territoire, la météo n'est pas uniforme. Elle dépend totalement de la géographie.
La météorologie, c'est ce qu'on pourrait appeler le court terme. Et s'il fallait faire une comparaison avec l'océan, même si nous en sommes un petit peu loin, je dirais que la météorologie, ce sont les vagues, c'est la prévision des vagues. La climatologie, c'est la marée, c'est-à-dire ce sont des phénomènes de grande ampleur, de grande échelle et sur une grande durée. Donc définir un climat, c'est définir des zones relativement homogènes où on va enregistrer les mêmes types de temps. Je vais prendre un exemple très vite. La météorologie, c'est la science de la prévision quasi immédiate. 24 heures, 48 heures, 72 heures, on va aujourd'hui jusqu'à une dizaine ou une douzaine de jours de prévision, au moins en tendance. Notre région, elle est caractérisée par effectivement des conditions météorologiques, celles de la prévision, qui peuvent être très différentes d'un endroit à l'autre. Je prendrai qu'un exemple très concret que chacun a en tête. Dimanche dernier, donc 1er dimanche de février, il y a du brouillard sur la région toulousaine qui ne se lève pas. Il fait 5 degrés à Toulouse, il fait froid. La journée est froide. En plein après-midi, le ciel est couvert, la visibilité est très faible, la lumière absente. À l'inverse, vous étiez à Arbas ou à Saint-Girons, vous aviez 18 degrés et un ciel complètement dégagé. Et en montagne, un temps absolument extraordinaire avec 16 ou 17 degrés et les quelques skieurs qu'il y a encore pouvaient manger dehors. Donc on voit bien que la météo de ce jour-là, elle est très particulière. Pour autant, le climat de montagne est quand même statistiquement un climat où il fait plus froid et où il pleut plus. Et à l'inverse, le climat de plaine est plus doux et les températures y sont plus élevées. Donc on était typiquement dans une situation où la météo montrait une inversion de température, alors que le climat, lui, rend compte, sur une durée longue, que il fait plus froid à Saint-Girons qu'à Muret, et il fait plus froid, bien sûr, au col du Portet d'Aspé qu'à Haute-Rive. On va connaître les climats, et la région de diffusion de Radio Galaxie est très marquée par ça. Elle est très différente selon que l'on est en montagne, l'influence de la montagne est prépondérante. Elle est dominante. Ensuite, en piémont, coincé entre le plateau de la Nemezan d'un côté et le plan Torel de l'autre. Et derrière, ensuite, la vallée de la Garonne d'un côté, les coteaux de part et d'autre, la vallée de la Garonne, et le Lauragais. Avec une influence assez particulière du relief pyrénéen qui induit des conditions météorologiques et des conditions climatiques très différentes. Prenons l'exemple de la journée du jeudi 8 février. Bien, le jeudi 8 février, le vent de sud se déclenche au pied des Pyrénées, Mais le vent de sud ne peut pas se déclencher à Toulouse. Ça surprend quand on dit ça, tout simplement parce que, à Toulouse, l'orientation du vent vient ou de l'ouest ou du sud-est. Et c'est ce que l'on appelle le vent d'automne quand il y a une composante sud sur les Pyrénées. Le vent de sud contourne les Pyrénées par l'est, arrive entre Corbières et Montagnes Noires, se renforce et va donner ce fameux vent d'automne qui globalement souffle pratiquement jusqu'à la Barthe-sur-Lèze, parfois jusqu'à Rieux, mais qui est au nord de cette ligne-là. Au sud, on ne sait pas ce que c'est que le vent d'automne.
Trop proche des Pyrénées, en fait.
Eh oui, c'est-à-dire que les Pyrénées font obstacle, c'est une forme de barrière, et effectivement, on est protégé au pied des Pyrénées, même si on peut avoir des phénomènes de vent de sud qui peuvent être assez remarquables. On parle alors de déferlantes et de coups de vent.
Et inversement, c'est-à-dire que les Pyrénées font aussi barrage et les pluies viennent s'essorer sur les Pyrénées en
c'est
dessous.
Ça. Alors, on a effectivement ces évolutions-là qui sont tout à fait remarquables. Si je prends la quantité de précipitations, si vous prenez une commune où on a des observations météorologiques, je pense ou à Saint-Félix-le-Raguet, mais on est déjà loin, Sègreville, ou le secteur de Sainte-Gabelle, il tombe 650 mm d'eau par an. Si vous prenez la montagne, vous allez dépasser 1200 mm d'eau du côté d'Arbas, c'est-à-dire plus du double. Donc on est effectivement avec un effet du relief, ces Pyrénées jouent un rôle essentiel dans le climat. Ou dans un sens, ou dans l'autre. Le flux vient du sud, on est protégé au versant nord. Le flux vient du nord, on est bloqué avec les nuages et les fortes précipitations. Or, statistiquement, il y a beaucoup plus de vent d'ouest ou de nord-ouest que de vent de sud. Mmh. Donc on va retrouver effectivement ces différences de précipitations.
Je suis avec Arnaud, notre monsieur météo sur Radio Galaxie. Et le bulletin météo quotidien, comment il est fait? Comment on le fait?
Alors, le bulletin météo quotidien, il est fait d'abord à partir d'une observation. Il est extrêmement important lorsqu'on veut faire un bulletin de prévision, déjà de savoir le temps qu'il fait. Ça peut paraître anecdotique, mais c'est quand même la base. Avant de parler de ce qui va se passer sur un territoire, encore faut-il savoir ce qui s'y passe déjà. Prenons l'exemple d'une prévision comme celle de jeudi 8. Bien, il est important de savoir le temps qu'il fait dès le lever du jour, les températures qu'on va observer, parce que la veille, on a prévu quelque chose, mais le matin même, il est important de savoir si on est dans le bon. Si vous annoncez des gelées et qu'il fait plus 8, c'est évidemment pas la même chose pour l'arboriculteur. Alors en février, c'est pas très grave, mais au mois d'avril ou au mois de mai, il vaut mieux ne pas se tromper quand même sur ce type de paramètres. Donc on va connaître le temps qu'il fait, ça passe par la prise de connaissance de l'ensemble du réseau météorologique. Aujourd'hui, il existe beaucoup de sites internet qui permettent de connaître, moi j'utilise Météo Ciel ou Info Climat, mais les sites de Météo France sont également très bien dotés, notamment sur les observations en montagne. On va utiliser ces informations-là. Ensuite, on va utiliser ce qui est fabriqué par les grands opérateurs de météo, à commencer par Météo France, c'est-à-dire les modèles de prévision numérique. Un modèle de prévision numérique, c'est quoi? C'est l'application à une situation donnée, ce qu'on appelle une analyse, de la science de l'atmosphère. La science de l'atmosphère répond à quatre grandes équations de physique que je ne vais pas détailler ici, qui rendent compte de l'évolution de la pression, de la température, de l'humidité et du vent. Tout ça en fonction du paramètre temps. Quatre équations de physique, quatre paramètres et un cinquième qui est le temps. Vous donnez une valeur au temps, quatre équations, quatre inconnues, les mathématiciens connaissent ça, il y a une solution. Donc on va avoir une prévision qui peut d'ailleurs, on peut s'amuser à aller jusqu'à 200 jours si on veut, ça n'a plus aucun sens, mais c'est intéressant de savoir que la prévision météorologique repose d'abord sur la qualité de l'analyse. De là, l'enjeu de disposer de beaucoup de points de mesure. Donc on va décomposer notre territoire en points de grille, ce qu'on appelle des points de grille, c'est-à-dire des données tous les kilomètres, tous les 2 kilomètres, tous les 5 kilomètres, tous les 10 kilomètres, selon la capacité des calculateurs. Et ce sont des calculateurs très puissants. Météo France dispose du calculateur civil le plus puissant d'Europe. C'est un énorme calculateur qui a des capacités énormes de production de données. Et on rentre ces données et ensuite on sort des données avec une prévision qui est renouvelé toutes les 3 heures ou toutes les 6 heures sur des modèles de prévision numérique.
Qui veut donc dire que vous, Arnaud, vous regardez ces cartes, ces graphiques, ces données qui sont transmises par ce calculateur, vous les analysez, vous les interprétez et vous en faites un texte compréhensible par le commun des mortels.
C'est ça. C'est-à-dire que le travail du prévisionniste météo et notamment du prévisionniste local, c'est vraiment de transformer une information générale en une information plus locale. Prenons toujours la situation du jeudi 8. La perturbation est en train d'une grosse perturbation. Ce qu'on appelle une perturbation météo, c'est en fait une très grosse zone nuageuse qui est générée par un conflit de masse d'air entre de l'air froid et de l'air doux. Actuellement, l'air froid est sur le golfe de Gascogne, sur l'océan Atlantique, et il se dirige et il pousse progressivement l'air chaud devant lui. Sauf que les Pyrénées font obstacle. Et donc, actuellement, eh bien, la zone perturbée va globalement depuis les Cantabriques jusqu'au Bordelais et remonte vers le nord-est de la France. Il pleut au nord de cette zone-là. Donc, on va observer et la prévision va prendre en compte cette situation-là. Et on va adapter notre prévision. Le temps d'aujourd'hui, enfin, du jeudi 8, c'est un temps qui est très doux, très ensoleillé et très agréable, alors qu'il est perturbé sur les deux tiers nord-ouest de la France.
Et à partir de là, on est capable d'aller encore beaucoup plus fin sur une zone plus spécifique en fonction de ce que vous disiez tout à l'heure, des points de repère tous les kilomètres, tous les deux kilomètres, pour dire que sur le Lauragais, il y aura ça, sur le Muretin, il y aura ça, et sur les Hautes-Pyrénées, il y aura ça.
Alors, c'est l'enjeu de la prévision numérique fine, de petite échelle, ce qu'on appelle une prévision de petite échelle. Petite échelle, ça veut dire que la maille de la grille est de l'ordre du kilomètre, actuellement 1,3 km exactement. Hein. Météo France produit, et les autres opérateurs météo, il y a beaucoup de modèles de prévision numérique, les autres opérateurs prévoient une évolution des températures sur des zones données. Et ensuite, il faut y mettre la patte plus personnelle. Parce que la météo, je le dis souvent, n'est pas une science exacte. Je rappelle, cette comparaison va faire sourire, et je m'en excuse auprès d'eux, mais la météo ne se trompe pas plus que les médecins. On est dans un travail d'analyse et de diagnostic qui ensuite va donner des préconisations. Et effectivement, la prévision de ce qui va se passer prend en compte bien sûr cette situation initiale, mais elle doit s'adapter au patient pour le médecin, au territoire pour le météorologue. Donc on va effectivement adapter notre prévision à ce qui se passe sur un territoire donné. Le vent vient de l'ouest, eh bien, il se trouve qu'à l'ouest de notre région de diffusion, ben, il y a le plateau de la Nemezan. Il fait 600 mètres d'altitude, entre 600 et 700 mètres d'altitude, c'est un premier obstacle. Donc si le vent vient d'ouest, eh bien, il est relativement faible chez nous. Il ne va se renforcer ou véritablement se renforcer quand il y aura un effet de compression au nord des Pyrénées, c'est-à-dire dès qu'il y a une petite composante nord-ouest. On l'oublie, les Pyrénées ne sont pas tout à fait ouest-est. Elles sont très légèrement penchées, si vous me permettez cette formule. Elles sont plutôt ouest-nord-ouest, sud-sud-est. Elles sont inclinées. Ce qui fait que quand le flux d'ouest qui est dominant ben, arrive, il y a une espèce de triangle qui part globalement d'Hendaï jusqu'à Carcassonne, et au sud évidemment avec la chaîne, qui est protégé des vents forts. Donc il vaut mieux le savoir et l'interpréter. À l'inverse, je parlais tout à l'heure du vent d'Otan, ben, le vent d'Otan ne touche pas la totalité de notre territoire. Donc il va conditionner la prévision et il va conditionner également les températures. En situation de vent d'Otan, en plein mois de janvier, en plein mois de février, vous avez 10 degrés le matin, 14 degrés l'après-midi, dans la zone du vent d'Otan. Hors zone du vent d'Otan, l'air est très sec et vous allez avoir 1 degré le matin et 18 degrés l'après-midi. Donc si vous dites aux gens, ben, il fait entre 1 et 10 le matin et entre 10, 14 et 18 l'après-midi, ils vont vous prendre pour un farfelu, quoi. Il fait 1 ou il fait 10 le matin. Donc il faut bien préciser de la zone dont on parle. Et l'enjeu de la prévision qui est effectuée et qui continuera à être effectuée auprès de vos auditeurs, c'est vraiment que d'abord eux se situent. C'est pour ça que l'on cite des communes ou que l'on cite des territoires. Quand on parle du Val-d'Estre, quand on parle du Savès, quand on parle du Comminges, on parle de régions qui sont des régions assez particulières. Quand on parle des Pyrénées, on va parler des Pyrénées au-dessus de 800 à 1000 mètres. C'est pas la peine de parler des Pyrénées quand on est à Saint-Girons. Saint-Girons, c'est déjà le Piémont, ou Man, ou Salis-du-Salat. Quand on parle du Lauragais, ben, il faut être clair, on parle des coteaux du Lauragais. En gros, entre Muret, Villefranche-Lauragais. Et ces coteaux-là sont aussi touchés de manière assez particulière par le vent d'Otan. Toutes ces données-là, il vaut mieux les intégrer. Quand on parle des brouillards dans les vallées, on sait bien que la vallée de la Garonne, compte tenu de l'humidité et de sa structure géographique, est très favorable à la formation de brouillards. Là encore, on a souvent des choses qui sont contre-intuitives. Je voudrais prendre qu'un exemple. Pendant plusieurs années, j'ai fait le trajet pour des raisons professionnelles entre Toulouse et la région paloise et puis ensuite le Pays Basque. Très régulièrement, je prenais ma voiture le matin pour partir au travail. Et je traversais, évidemment, j'arrivais à Martres-Tolosane ou au péage de l'Estel, et j'avais une température de 1 degré. Et puis je prenais l'autoroute, je montais à Saint-Gaudens, il faisait 4, et j'arrivais à la Nemezan, il faisait 12. C'est complètement contre-intuitif. Je monte, la température devrait descendre. Et là, c'était l'inverse. Bien, on était dans des situations que l'on appelle en météo d'inversion de température. Et ça, c'est assez caractéristique des phénomènes de vallée. L'air froid se bloque en fin de nuit et vient se bloquer au fond des vallées. Et c'est pour ça que dans la vallée de la Lèze, dans la vallée de la Rize, dans la vallée du Salat, ou et bien sûr dans la vallée de la Garonne, ou la Louge, en fait tous les ruisseaux, on va avoir effectivement des concentrations nuageuses liées de brouillard, formation de brouillard liées à la condensation provoquée par l'air froid.
Ça, ok. Techniquement, comment vous faites pour délivrer un bulletin tous les jours? Comment ça se passe? Vous venez tous les matins à 6h du matin pour garder le truc?
Non, je suis à mon domicile avec Internet aujourd'hui, avec l'ensemble des moyens de télécommunication. On accède en temps réel et autant que de besoin aux informations météorologiques. On va utiliser les modèles de prévision qui sortent très régulièrement. Et ensuite, on va faire la prévision en essayant de l'adapter aux conditions du territoire dont on parle. Et en essayant surtout de ne pas se tromper dans l'importance de la prévision météorologique. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont importantes et il y a des choses qui le sont moins. Le fait qu'il y ait des passages nuageux et qu'il fasse du temps doux, ça va être une indication générale. S'il fait 18 degrés ou s'il fait 16 degrés, c'est pas fondamental dans la condition du climat. Par contre, annoncer qu'on va perdre 10 degrés en 48 heures au cours des prochains jours, qu'il va neiger dans les Pyrénées, ça va intéresser quelques personnes. Et effectivement, le fait que aujourd'hui les Pyrénées souffrent d'un manque de neige absolument extraordinaire, on est globalement dans des conditions de la fin avril sur la chaîne pyrénéenne au niveau de son enneigement. Donc il va falloir informer les auditeurs de ce qui va se passer. A fortiori, s'ils ont prévu de partir en vacances dans les Pyrénées samedi ou dimanche. À partir de 1000 ou 1200 mètres d'altitude, ils risquent d'être bloqués par des conditions de neige qu'on ne peut pas soupçonner à partir d'une journée ou les trois jours avant, quoi.
D'ailleurs, ce qui nous permettra de voir par la suite qu'on a prévu certainement de faire une météo des neiges pendant les périodes de vacances pour que nos auditeurs puissent savoir s'ils peuvent chausser leur ski ou pas.
Tout à fait. Et alors, il y a à la fois évidemment l'aspect touristique, mais il y a aussi l'aspect sécuritaire. La priorité de Météo France, et j'en fais aussi la mienne en tant qu'intervenant sur votre antenne, c'est la sécurité des personnes et des biens. C'est-à-dire, pour ça je disais, il ne faut pas confondre l'accessoire et l'essentiel. L'essentiel, c'est annoncer effectivement les grands phénomènes météorologiques quand ils se produisent. Et je mets là-dedans les conséquences aussi, en particulier les inondations. On a connu historiquement de grosses inondations sur la Garonne ou sur la Lèze, voire sur le Salat au cours de ces dernières années. Donc il est important de prévenir quand même qu'un phénomène grave est susceptible de se produire. Idem pour des fortes, j'évoquais tout à l'heure, les fortes gelées au printemps, ou des coups de chaleur en été, ou des orages très violents, ou des coups de vent, qui évidemment vont conditionner très fortement l'intérêt des auditeurs, mais également l'intérêt du météorologue sur la situation qu'il faut annoncer aux auditeurs.
Eh bien, chers auditeurs, vous aurez l'occasion de retrouver les bulletins météorologiques quotidiens d'Arnaud du lundi au vendredi.
Quel temps va-t-il faire aujourd'hui? Vent? Pluie? Brume matinale? Ou soleil? Retrouvez Arnaud pour votre bulletin météo.
Le matin à 8h-10, à 10h, à 12h10 et le soir pour la météo du soir et du lendemain à 18h30. Arnaud, Monsieur Météo, merci beaucoup.
Merci à vous.
Et puis bon vent, j'allais dire.
Oui, vent d'automne et vent de sud.
Merci, bonne journée.
Au revoir.
Au sud de Toulouse, j'écoute Radio Galaxie et j'aime ça.